Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Blaise Chinani Kambala. D'abord, le titre de ce journal. Le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, poursuit sans désemparer sa campagne sur la reconnaissance du génocide congolais. Après Kinshasa, le ministre séjourne en Belgique pour vulgariser les résolutions reconnaissant ces génocides. Le service national a remis ce vendredi 1500 bancs pupitres à 13 écoles de Lubumbashi qui fonctionnent dans cette ville. Cette remise s'inscrit dans le cadre de l'opération dénommée « Pas d'école publique et université sans banc ». L'invité de ce journal est Claude Kalinga, chargé de communication du PAM. Il fait partie de la délégation qui séjourne en Mbujimayi pour échanger avec les autorités locales autour des inquiétudes sur le détournement des intrants nutritionnels destinés aux enfants malnutris et voir comment lutter contre la désinformation. Mesdames et messieurs, bonjour et bon dimanche à tous. Ce journal part de Bruxelles en Belgique, où séjourne le ministre des Droits humains pour vulgariser les résolutions reconnaissant les génocides congolais. Samuel Mbemba a animé ce samedi un forum à l'Université libre de Bruxelles ULB sur les thèmes « Reconnaître les génocides congolais, un impératif pour la justice internationale ». De nombreux étudiants congolais et autres participants ont pris part à ce rendez-vous. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Au cours de cette conférence, le ministre des Droits humains a invité l'assistance à s'approprier les combats pour la reconnaissance du génocide congolais. Pour Samuel Mbemba, cette bataille porte déjà des fruits grâce aux résolutions de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ainsi que celles de la société civile africaine. À cette occasion, il a salué la signature de l'accord de paix conclu entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique à Washington. Ses membres du gouvernement souminois a également indiqué que ce texte obligera le Rwanda à respecter ses engagements et ouvrira la voie à la justice transitionnelle en RDC. De son côté, une étudiante congolaise de l'Université libre de Bruxelles a encouragé ses collègues à tout mettre en œuvre pour que le génocide congolais soit reconnu au niveau des institutions internationales. Au pays, les catholiques, les protestants et pasteurs des autres confessions religieuses s'engagent également pour la reconnaissance des résolutions affirmant l'existence de ces génocides.
Ici au pays, à Nitouri, les casques bleus de la MONUSCO appuient depuis vendredi les FA RDC face aux attaques des miliciens de la Convention pour la Révolution Populaire CRP dans les localités de Boulé, Ka et Loda en territoire de Djougou. Samedi, ils ont riposté presque toute la journée au tir de cette milice pour protéger les civils. Deux militaires FARDC blessés au front ont également été évacués vers Bounia grâce au soutien logistique de la MONUSCO. Par ailleurs, une vingtaine d'humanitaires se sont réfugiés dans la base militaire des Bayo pour leur sécurité. Isaac Remoyope pour plus de détails.
Depuis vendredi, les casques bleus sont en alerte maximale pour contenir la menace de la milice CRP déployée sur le terrain. Ils protègent les civils pris entre les forces loyalistes et les combattants de la CRP, notamment autour des Bayo. Ils ont aussi intensifié leur patrouille dans les villages environnants et autour des sites déplacés des Sapali et Tchoukpa avec des tirs de sommation pour décourager toute attaque. Samedi, la force de la MONUSCO a essuyé à au moins 5 reprises des tirs des miliciens à Bayo et près du site déplacer des Loda sans enregistrer des victimes. Les casques bleus ont riposté et repoussé toutes ces attaques. Des militaires FARDC ont toutefois été blessés lors des affrontements avec les éléments de la CRP. Ils ont reçu les premiers soins à la base des Bayou avant d'être évacués par hélicoptère vers Bounia. Dans la soirée, un mouvement suspect des miliciens CRP a été repéré près des positions FARDC à Boulé. Les FARDC et une patrouille de la MONUSCO ont immédiatement riposté pour repousser ces assaillants. Face à l'insécurité persistante, 29 membres du personnel des deux agences des Nations Unies ont trouvé refuge samedi à la base des Bayo pour leur protection. Un calme précaire règne désormais dans la zone après les combats qui ont fait au moins 7 morts dans les rangs de la milice, plusieurs blessés et des civils seraient tués. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Et puis un hélicoptère a échoué dans les eaux du lac Tanganyika ce 5 décembre pendant la journée aux abords de la localité de Yungu dans les territoires de Fizi. Le bilan provisoire est d'un mort et deux membres de l'équipage repêché selon un des responsables de la nouvelle société civile congolaise du territoire de Fizi. Les opérations de sauvetage se sont poursuivies jusqu'à tard dans la soirée. Aucun autre détail sur cet appareil n'a été fourni, mais les trois occupants à bord étaient tous des experts. L'appareil provenait d'Ouvira au sud Kivu, à destination de Kalemi, dans la province du Tanganyika. Pendant ces temps à Kisangani, les victimes de guerre ont organisé un sit-in vendredi devant le bureau de la société civile Force Vive. Encadrée par leur comité de crise, elles réclament la réouverture urgente du bureau de coordination du fonds de réparation des indemnisations des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC. Cette structure chargée de leur indemnisation est fermée depuis plusieurs mois. Les victimes dénoncent également des cas de manipulation de certains membres à des fins de positionnement. Jacques Moukonkole.
Au cours de cette manifestation, le président du comité de crise du Fonds de solidarité a fustigé la fermeture prolongée du bureau du FRIVAO. Jean Kalegamire demande au gouvernement central de clarifier la situation administrative et financière de cet établissement public. Ceci pour que reprenne le processus d'indemnisation dans la transparence.
Le comité de crise reste serein et attend avec patience les fruits de la restructuration profonde par vous, notre ministre des tutelles, pour la reprise des activités d'indemnisation effective et totale des victimes de guerre au sein des FRIVAO.
Ce temps mort donne l'occasion à certains esprits malveillants de tenter de manipuler certaines victimes de guerre à de fins de positionnement, révèle le président du comité de crise. Cette situation risque de déboucher à des divisions qui risqueraient d'accentuer leur vulnérabilité sociale et économique, prévient Jean Kalegamire. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, le collectif des députés nationaux honoraires réélus de la législation de 2018 à 2023 demande à la première ministre Judith Suminwa-Tuluka d'instruire les ministres des Finances pour qu'ils payent leur indemnité de sortie. Ils ont déposé un courrier au bureau de l'Assemblée nationale ce week-end avec un seul préalable, tenir compte de leurs revendications avant l'adoption du budget de l'exercice 2026 afin de favoriser un climat de paix sociale avec ceux qui ont servi la République pendant ces 5 ans. On écoute Ntumba Tshabola, coordonnateur et porte-parole du collectif des députés nationaux honoraires réélus de la législation 2018-2023 au micro de Richard Junior Kamunga.
Dernièrement, nous étions dans une réunion tripartite entre l'Assemblée nationale, le gouvernement ainsi que la délégation des députés nationaux honoraires et réélus de la législature 2018-2023. Au cours de cette réunion tripartite, le gouvernement avait pris l'engagement de payer les restes de notre haut pays de 75%, qu'il avait payé partiellement à 50% depuis le 1er novembre de l'année en cours. Les dates fixées et convenues pour payer, c'était les 27 et les 28. Malheureusement, nous avons trouvé que le gouvernement n'a pas respecté ses engagements. Voilà pourquoi nous sommes venus déposer le courrier pour appeler à notre gouvernement de s'exécuter afin que le budget de l'exercice 2026 soit adopté en toute sérénité. Nous avons servi la République pendant 5 ans et nous continuons à servir la République d'une manière ou d'une autre. Nous n'avons aucune revendication excessive, c'est juste un droit. Un droit n'est droit que lorsqu'il est réclamé. Et lorsque vous ne le réclamez pas, ça veut dire que ce n'est pas votre droit. Cela n'empêche pas d'autres catégories sociales de réclamer.
Ce journal se poursuit dans la province du Haut-Katanga où le service national a remis ce vendredi 1500 bons pupitres à 13 écoles de Lubumbashi qui fonctionnent au sein des bâtiments du complexe scolaire Kiwele, l'un des plus grands établissements scolaires de la ville de Lubumbashi. Cette remise s'inscrit dans le cadre de l'opération dénommée « Pas d'école publique et université sans banc ». Le point avec Paul Monanga.
Parmi les écoles bénéficiaires, il y a l'Institut Uwezo, le lycée Kiwele, l'Institut Moto, l'Institut des Beaux-Arts, l'Institut d'éducation civique, l'Institut Bana Congo, les écoles primaires Kiwele 1, 2, 3 et 4 et tant d'autres. Pour les commandants du service national, avec ces bancs, les problèmes de capacité d'accueil est résolu dans des écoles. Il rappelle que ces bancs pupitres sortis des ateliers du service national à Lubumbashi ont été fabriqués par d'anciens koulouna devenus bâtisseurs de la nation. Lieutenant général Jean Kasongo Kabouik.
Le chef de l'État avait décidé de relancer l'encadrement des jeunes de œuvres appelés koulouna à Kinshasa. vagabond à Lubumbashi. Après un séjour d'encadrement civique et patriotique au centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyamakassé, ces jeunes ont été initiés au métier. Nous comptons des menuisiers, des maçons, des ajusteurs, des conducteurs d'engins lourds. Ce sont ces jeunes menuisiers formés à Kanyamakassé qui ont fabriqué des bancs qui sont aujourd'hui mis à la disposition des écoles de la République démocratique du Congo.
Plusieurs écoles à travers la République sont déjà équipées en bancs. En même temps, le service national a formé des jeunes qui se sont spécialisés dans la maçonnerie. À ce jour, plus d'une trentaine d'écoles construites par les services nationaux sont opérationnelles dans les Grands Kassai et les Grands Katanga. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
La province du Sud-Ubangi manque de routes asphaltées. Des véhicules ont du mal à circuler entre Akula et la ville de Gemena qui, elle aussi, manque de voiries urbaines. Témoignage de maître Serge Linzabé, président national du groupe Linzabé pour la mobilisation culturelle du Sud-Ubangi. Il plaide pour la construction des routes tout en appelant la première ministre Judith Suminwa à visiter cette province afin de comprendre comment vivent les populations de ces coins du pays. On écoute maître Serge Linzabé au micro de Jude Mister Bilanda.
La route est très dégradée. À Gemena, la voirie urbaine est inexistante. Il y a de la poussière. Les enfants tombent malades. Il n'y a aucun kilomètre asphalté dans la province du Sud-Ubangi, même dans son chef-lieu qui est la ville de Gemena. Pouvez-vous imaginer que pour une route de moins de 200 kilomètres, Gemena à Kula, des véhicules font 2 semaines, voire plus? Et c'est vraiment une situation désespérée. Qu'on nous donne ne fût-ce que 10 kilomètres d'asphalte, ne fût-ce que dans la ville de Gemena, pour essayer de donner de l'espoir à cette ville. Nous ne demandons pas beaucoup, ne fût-ce que 10 kilomètres d'asphalte pour aider la ville. Même si le gouvernement n'a pas les moyens de construire immédiatement, mais si la première ministre arrive à Gemena, qu'elle palpe la situation, ce serait le début de la solution de notre problème.
Les habitants de la ville de Matadi dans le Congo central décrit la hausse des prix des bilokost, communément appelé bilokos. La vente de ces produits de seconde main, principale activité commerciale des fils et filles de Matadi, n'est plus aussi rentable à en croire les commerçants matadiens. Sur place, Élise Kavira sillonne la ville et nous partage les résultats de son enquête.
À chaque coin de rue, des magasins et étalages remplis de toutes sortes d'appareils, matelas, fauteuils et divers, venus d'Europe et d'ailleurs vendus à moindre coût. Mais plus d'engouement d'acheteurs comme ce fut le cas dans les temps anciens. Mavinga Tonton, vendeur des bilokos depuis plus de 22 ans, lance son cri du cœur.
On vendait bien auparavant, mais nous avons une difficulté. La difficulté est aussi du côté des importateurs et aussi pleurniche suite à la douane.
Rendu au port Matadi Gateway Terminal, MGT en sigle, nous rencontrons Jean Mokonda, un déclarant connu à ces ports pour son ancienneté. Il explique ce qui, selon lui, serait à la base de cette hausse de prix.
L'État doit revoir les taxes. S'ils ne parviennent pas à revoir la taxe, ça serait terrible. C'est pourquoi on dit que les bilokos sont chers. Non, les bilokos ne sont pas chers. Quand quelqu'un doit dédouaner un conteneur à 15 000 dollars, il doit savoir comment vendre les bilokos pour récupérer son argent de fret.
Les habitants de Matadi demandent aux autorités locales de suivre cette situation de près, car la vente de bilokos est un atout économique non négligeable pour la ville. Matadi, Élise Kavira, Radio Okapi.
Un mot sur la santé dans ce journal avant d'aller plus loin. La trypanosomiase humaine africaine, communément appelée maladie du sommeil, sévit toujours dans la province du Kwilu. Depuis le début de l'année, 196 cas ont été recensés dans 5 zones de santé. Le coordonnateur du programme national de lutte contre cette maladie au Kwilu indique que la situation reste préoccupante malgré la prise en charge des patients. Le docteur Patou Ngazobo a été joint par Jean-Claude Ntangamo.
La province du Kwilu est actuellement la province la plus endémique de la maladie du sommeil. Donc actuellement, nous avons une situation qui nous pose un sérieux problème. Nous avons 5 zones de santé où on a constaté, au lieu d'avoir dans l'ensemble une diminution du nombre de cas, mais dans ces zones de santé particulièrement, nous avons une augmentation des zones de cas. Donc l'inquiétude est plus dans la zone de santé de Kimputu, dans la zone de santé de Ipamu, dans la zone de santé de Boulungu et dans la zone de santé de Mokala. Sans vous oublier à Sabonga et Mossango aussi, qui constitue un sujet d'inquiétude. On ne compte pas encore les T4, donc ça veut dire que de janvier à septembre, la province du Kulu a déjà notifié 163 nouveaux cas. Pour la prise en charge des médicaments, il y a l'OMS avec ses différents partenaires qui mettent à la disposition les médicaments. L'OMS nous fait parvenir et il y a la disponibilité des médicaments. Nous n'avons pas les ruptures des médicaments au niveau de la province. Tous les malades diagnostiqués, tous ont été mis sous traitement.
Actualité internationale.
Près d'un an après le démantèlement de l'USAID par l'administration Trump, les États-Unis ont signé un nouveau type d'accord avec le Kenya dans le domaine de la santé jeudi 4 décembre. D'un montant de 2,5 milliards de dollars sur 5 ans, il prévoit notamment de financer des programmes de prévention et de traitement des maladies comme le VIH, le paludisme ou la tuberculose. Mais à Nairobi, le partage des données qu'il inclut avec Washington suscite la polémique.
L'invité.
Une délégation du programme alimentaire mondial PAM séjourne en Mbujimayi au Kasaï oriental depuis jeudi dernier. D'après Claude Kalinga, chargé de communication au PAM, cette délégation est venue échanger avec les autorités locales autour des inquiétudes sur les détournements des intrants nutritionnels destinés aux enfants malnutris et voir comment lutter contre la désinformation. Claude Kalinga s'entretient avec Esther Ndalafina.
Bonjour, monsieur Claude Kalinda. Voilà, vous êtes en Mbujimayi au Kasaï oriental. Quel est le but de la mission?
Merci. Je suis en mission ici pour rencontrer les médias et les autorités afin de leur faire part de certaines inquiétudes concernant un certain nombre de problèmes, un certain nombre de questions relatives notamment au détournement ou à la vente des intrants nutritionnels dans la majeure partie des centres de santé que nous appuyons en intrants nutritionnels et aussi pour essayer de lutter contre la désinformation selon laquelle le PAM achète du maïs sur le marché et ce qui contribue à la hausse des prix. Il y a aussi la question de l'arnaque. Il y a des gens qui continuent à utiliser les réseaux sociaux, les réseaux téléphoniques pour escroquer le paisible citoyen. Ils leur proposent en fait le recrutement au PAM. Contrepartie, ils leur demandent soit des crédits téléphoniques, soit de l'argent. Donc, il était temps que nous venions pour parler avec les autorités, avec tous les partenaires dans les médias, pour qu'ensemble nous puissions sensibiliser la population, donc leur demander d'être alerte. Si jamais ils tombaient sur l'une de ces questions que je viens d'évoquer, qu'ils sachent qu'il s'agit simplement soit de l'arnaque, soit de la désinformation.
Nous pouvons dire que les activités du PAM sont méconnues de la population. Et c'est aujourd'hui, après plusieurs années, que le PAM vient vers les journalistes pour leur parler. Est-ce que vous ne trouvez pas que cette politique ne permet pas, même aux médias, de bien travailler en collaboration avec le PAM?
Vous avez tout à fait raison, madame. En fait, la dernière fois que nous avons organisé une activité avec le média date d'il y a à peu près 2 ans ou au-delà. C'est une anomalie. Donc, il est important pour nous de communiquer de manière régulière avec le média. Parce qu'en fait, lorsque l'information n'est pas donnée, finalement, tout le monde cherche n'importe laquelle et on tombe dans la désinformation ou simplement dans la mésinformation ou les rumeurs. Nous avons finalement décidé de pouvoir continuer maintenant, désormais, à parler aux médias, à sensibiliser la communauté. Au besoin, nous allons, notamment avec le média, tenter de distribuer tous les 3 mois un document qui retrace au moins les grandes réalisations trimestrielles des actifs, disons, du PAM, de sorte que les médias soient informés et à leur tour, ils en informeront la population.
Au cours du point de presse, vous avez indiqué que le PAM a suspendu la distribution de la ration alimentaire auprès des nécessités. Quel est le motif?
En fait, dans la région du Grand Kasaï, vous savez que suite aux malheureux événements liés à ce que tout le monde connaît, le Kamuina Nsapu, une grande majorité de la population était en déplacement. Donc, le PAM était obligé d'activer son mandat, son pilier de la réponse aux urgences et pour sauver les vies, et raison pour laquelle le PAM, en fait, à ce moment-là, devait voler au secours de ces personnes déplacées partout. Donc, maintenant que ces événements malheureux sont derrière derrière nous. Donc la population n'a pas besoin qu'on leur donne du poisson. La population a besoin plutôt qu'on l'accompagne, qu'on leur apprenne à pêcher. Raison pour laquelle, en nous alignant sur les plans prioritaires du gouvernement, nous ne pouvons plus continuer à distribuer de la nourriture, mais nous assistons la population à travers les activités de renforcement des résiliences, des petits producteurs agricoles, afin que ces communautés locales puissent se prendre en charge. Donc qu'ils produisent, parce que le PAM n'est pas appelé à demeurer éternellement dans la zone. Le jour où le PAM va se retirer, que cette population continue à compter sur elle-même, continue à produire. Donc, raison pour laquelle nous avons un certain nombre d'activités allant dans ce sens. Et voilà, nous sommes fiers qu'aujourd'hui, les résultats sont là. Et nous pensons que les communautés locales vont pérenniser ces différents programmes et projets.
Comment évaluez-vous votre aide humanitaire dans le Kasaï oriental?
Il faut dire sincèrement que les besoins sont très, très énormes. Les projets que nous avons ici, c'est des projets qui sont des projets pilotes. Mais si on avait assez de ressources, nous, on pouvait faire plus que ça. Aujourd'hui, nous sommes vers Miabi, un peu plus de ce côté-là. Donc, nous aimerions pouvoir aller dans plusieurs territoires à la fois. Cela demande beaucoup de ressources avec les coûts budgétaires d'un grand nombre de nos partenaires, dont donateurs. Donc, on se retrouve en difficulté pour pouvoir étendre de manière considérable nos activités.
Monsieur Claude Kalinga, merci.
Merci.
C'était notre invité Claude Kalinga qui s'entretenait avec Esther Darafina et c'est ce qui met fin à notre journal coordonné et supervisé par Jude Mister Bilanda Nkumar et mis en onde par Jean-Claude Nsiala Mwanamake Ngonsoalo. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la radio de la paix.